grandissent. Ils arrivèrent au moment où on ne les attendait pas, presque un mois plus tard. Vessovtchikov, André et Pavel étaient réunis et parlaient de leur journal. Il était tard, près de minuit. La mère était déjà couchée. Elle s'endormait et entendait vaguement les voix soucieuses et basses des jeunes gens. André se leva soudain, traversa la cuisine sur la pointe des pieds et ferma doucement la porte derrière lui. Dans le corridor résonna le bruit d'un seau renversé. La porte s'ouvrit toute grande. Le petit Russien dit à haute voix « Écoutez ce bruit d'éperon dans la rue !» La mère se leva brusquement, prit sa robe d'une main tremblante. Mais Pavel apparut sur le seuil et lui dit avec tranquillité « Restez couché, vous n'êtes pas bien. » On entendit des frôlements furtifs sous l'auvent. Pavel s'approcha de la porte et, la heurtant de la main, il demanda « Qui est là ?» Rapide comme l'éclair, une haute silhouette s'encadra sur le seuil. Il y en avait encore une autre. Les deux gendarmes repoussèrent le jeune homme qu'ils placèrent entre eux. Une voix aiguë et irritée résonna.
« Pas ceux que vous attendiez, n'est-ce pas ?»
Celui qui parlait était un jeune officier, grand et mince, à la moustache noire. Fediakine, l'agent de police du faubourg, se dirigea vers le lit de la mère, portant une main à la visière de sa casquette. Il désigna de l'autre la femme couchée, en disant avec un regard terrible.
« Voici sa mère, votre honneur !»
Puis, agitant le bras dans la direction de Pavel, il ajouta
« Et le voilà lui-même !»« Pavel Vlassov ?»
demanda l'officier en clignant des yeux. Le jeune homme, ayant hoché affirmativement la tête, il continua en effilant sa moustache.
« Je dois perquisitionner chez toi. Lève-toi, la vieille.
Qui est là-bas ?» En jetant un coup d'œil vers la chambre, il s'y rendit à grands pas.
« Votre nom ?»
l'entendit-on questionner. Deux autres personnages apparurent encore. C'était le vieux fondeur, Tveriakov, et son locataire, le chauffeur Ribine, un homme à chevelure noire et de bonne conduite. Ils étaient requis comme témoins par la police. Ribine s'écria d'une voix épaisse et forte.
« Bonsoir, Pélagué !»
La mère s'habillait et, pour se donner du courage, se disait « Voilà encore, venir la nuit. Les gens sont couchés, et ils arrivent. » La chambre semblait petite, et une forte odeur de cirage s'était répandue. Les deux gendarmes et le commissaire de police du quartier, Riskine, enlevaient à grand fracas les livres des rayons et les empilaient sur la table, devant l'officier. Les deux autres donnaient des coups de poing contre les murs, regardaient sous les chaises. L'un se hissa péniblement sur le poêle. Le petit Russien et Vessovtchikov, serrés l'un contre l'autre, se tenaient dans un coin. Le visage grêlé du second était couvert de plaques rouges, et ses petits yeux gris ne pouvaient se détacher de l'officier. Le petit Russien tortillait sa moustache, et quand la mère entra dans la chambre, il lui fit un signe de tête amical. Pour cacher sa terreur, elle se mouvait, non pas de côté comme d'habitude, mais la poitrine en avant, ce qui lui donnait un air d'importance, affecté et risible. Elle marchait avec bruit et ses sourcils tremblaient. L'officier prenait prestement les livres du bout de ses doigts, blancs et effilés. Il les feuilletait, les secouait et, d'un geste adroit, les jetait de côté. Parfois, un volume tombait à terre avec un petit bruissement. Tout le monde se taisait. On n'entendait que les reniflements des gendarmes échauffés, le cliquetis des éperons. De temps à autre, une voix demandait. « Tu as regardé ici ?» La mère se plaça à côté de Pavel, contre le mur. Comme lui, elle croisa les bras sur sa poitrine et voulut examiner l'officier. Ses genoux chancelaient. Un brouillard voilait ses yeux. Soudain, la voix de Vessovtchikov résonna, tranchante. « À quoi bon lancer les livres par terre ?» La mère frémit. Tveriakov hocha la tête, comme si on l'avait frappé à la nuque. Ribine grogna et considéra attentivement le coupable. L'officier cligna des yeux et plongea son regard dans le visage grêlé et immobile du jeune homme. Puis, ses doigts feuilletèrent encore plus rapidement les pages des livres. Par moments, il ouvrait si grand ses yeux gris qu'on pouvait croire qu'il souffrait atrocement, qu'il allait crier, furieux et impuissant contre la douleur. « Soldat !» dit de nouveau Vessovtchikov. « Ramasse les livres !» Les gendarmes se tournèrent tous vers lui, puis regardèrent l'officier. Celui-ci leva encore la tête et, lançant un coup d'œil scrutateur sur le grêlé, il ordonna en nasillant. « Eh bien, ramassez les livres !» L'un des gendarmes se baissa et, tout en examinant Vessovtchikov du coin de l'œil, se mit à relever les livres en lambeaux. « Il ferait mieux de se taire !» chuchota la mère en s'adressant à son fils. Il haussa les épaules. Le petit Russien tendit le cou. « Qu'est-ce que ces chuchotements ? Je vous prie de vous taire. Qui est-ce qui lit la Bible ici ?»«
Moi, » répondit Pavel.
« Ah ! Et à qui sont tous ces livres ?»«
À moi, » dit-il encore.
« Bien, » fit l'officier en s'appuyant au dossier de la chaise. Il fit craquer les doigts de sa main blanche, allongea les jambes sous la table, lissa sa moustache et interpella Vessovtchikov. « C'est toi qui es André Nakhodka ?»«
C'est moi, » répondit le grêlé en s'avançant. Le petit Russien tendit le bras, l'arrêta par l'épaule et le fit reculer.
« Il s'est trompé. C'est moi qui suis André. »
L'officier leva la main et, menaçant Vessovtchikov du petit doigt, lui dit « Prends garde !» Il se mit à fouiller dans ses papiers. De ses yeux indifférents, la nuit lumineuse et claire regardait à travers la fenêtre. Quelqu'un allait et venait devant la maison et la neige criait sous les pas.
« Tu as déjà été poursuivi pour délit politique, Nakhodka ?» demanda l'officier.
« Oui, à Rostov et à Saratov. Seulement là, les gendarmes me disaient « vous ».
L'officier cligna de l'œil droit, le frotta, puis reprit, en découvrant ses petites dents.
« Eh bien, Nakhodka, connaissez-vous peut-être, oui, connaissez-vous les scélérats qui répandent dans la fabrique des brochures et des proclamations interdites ?»
Le petit Russien s'agita. Il allait dire quelque chose avec un large sourire lorsque la voix énervante de Vessovtchikov résonna de nouveau.
« C'est la première fois que nous voyons des scélérats. »
Le silence se fit pendant un instant. La balafre de la mère pâlit, tandis que son sourcil droit remontait. La barbe noire de Ribine se mit à trembler d'une manière bizarre. Il baissa la tête et étira lentement sa moustache.
« Faites sortir cet animal !» ordonna l'officier.
Deux gendarmes saisirent le jeune homme sous le bras et l'entraînèrent dans la cuisine. Là, il parvint à s'arrêter et, se retenant au plancher de toute la force de ses pieds, il s'écria.
« Attendez, je veux mettre mon manteau !»
Le commissaire de police, qui avait été fouillé dans la cour, revint en disant
« Il n'y a rien, nous avons regardé partout !»«
Bien entendu !» s'exclama l'officier avec ironie. « Je le savais bien. Nous avons affaire à un homme expérimenté. »
La mère écoutait cette voix faible, frémissante et cassante.
et quand elle considérait le visage jaunâtre de l'homme, elle sentait que c'était un ennemi impitoyable, au cœur plein de mépris pour le peuple. Jadis, elle n'avait vu que peu de personnes de ce genre, et, les dernières années, elle avait même oublié qu'il en existait. C'est cela que nous inquiétons, pensa-t-elle. Monsieur André Onisimov Nakhodka, fils de père inconnu, je vous arrête. Pourquoi ? Demanda celui-ci avec calme. Je vous le dirai plus tard, répondit l'officier avec une politesse malveillante. Et se tournant vers Pélagué, il lui cria. Sais-tu lire et écrire ? Non, intervint Pavel. Ce n'est pas toi que j'interroge, fit sévèrement l'officier. Il reprit. Réponds, la vieille. Sais-tu lire et écrire ? Envahie par un sentiment de haine instinctive envers cet homme, la mère se redressa soudain, toute tremblante, comme si elle eût plongé dans un fleuve glacé. Sa balafre devint écarlate et son sourcil s'abaissa. Ne criez pas, dit-elle en tendant le bras vers l'officier. Vous êtes encore jeune, vous ne savez pas ce que c'est que la souffrance. Calmez-vous, maman, interrompit son fils. Il vaut mieux retenir son cœur et se taire, conseilla le petit Russien. Attends, Pavel, s'écria la mère avec un élan vers la table. Pourquoi arrêtez-vous les gens ? Ça ne vous regarde pas. Taisez-vous, cria l'officier en se levant. Ramenez Vesovchikov. Et il se mit à lire un papier en l'élevant à la hauteur de son visage. On introduisit le jeune homme. « Enlève ta casquette !» cria l'officier, interrompant sa lecture. Rébine s'approcha de Pélagué et, la poussant de l'épaule, lui dit à voix basse. « Ne vous échauffez pas, la mère !»« Comment pourrais-je enlever ma casquette quand on me tient les mains ?» demanda Vesovchikov. L'officier lança le procès-verbal sur la table. « Signez !» fit-il brièvement. La mère regarda les assistants signer le document. Son excitation était tombée. Le courage lui manquait. D'amères larmes d'impuissance et d'humiliation montaient à ses yeux. Pendant les 20 années de sa vie conjugale, elle avait pleuré des larmes de ce genre. Mais elle avait presque oublié leur brûlure cuisante depuis son veuvage. L'officier la regarda et fit avec une grimace dédaigneuse. « Vous hurlez trop tôt, ma bonne. Vous verrez, il ne vous restera plus assez de larmes pour l'avenir. » Elle lui répondit, de nouveau irritée. « Les mères ont assez de larmes pour tout. Pour tout. Si vous en avez une, elle doit certainement le savoir. » L'officier plaça vivement ses papiers dans un portefeuille tout neuf, à la serrure étincelante. Il dit en s'adressant au commissaire de police. « Ils sont tous d'une indépendance révoltante, les uns comme les autres. »« Quelle insolence !» marmotta le commissaire. « Marche !» commanda l'officier. « Au revoir, André. Au revoir, Nicolas !» dit Pavel avec chaleur, en serrant la main de ses camarades. « Oui, parfaitement. Au revoir !» déclara l'officier avec ironie. Sans parler, Vesovchikov serrait la main de la mère de ses doigts courts. Il respirait à grand-peine. Son gros cou était congestionné. Ses yeux brillaient de rage. Le petit Russien souriait et secouait la tête. Il dit quelques mots à Pélagué. Elle fit le signe de la croix sur lui en lui répondant. « Dieu reconnaît les justes. » Enfin, la troupe des hommes aux capotes grises disparut au coin de la maison, avec un cliquetis d'éperon. Rébine fut le dernier à sortir. Ses yeux noirs scrutèrent Pavel. Il dit d'un air pensif. « Eh bien, adieu !» et il s'en alla sans se presser, en toussant dans sa barbe. Les mains croisées derrière le dos, Pavel se mit à aller et venir, à pas lents, entre les paquets de linge et de livres qui gisaient sur le sol. Il s'écria d'une voix sombre. « Tu as vu comment cela se passe ?» Tout en considérant la chambre en désordre d'un air déconcerté, la mère chuchota, angoissée. « On te prendra aussi. Pourquoi Vesovtchikov a-t-il été grossier ?»« Il a eu peur, probablement, » dit Pavel à voix basse. « Il ne faut pas leur parler. On ne peut rien faire avec eux. Ils sont incapables de comprendre. » »« Ils sont venus. Ils l'ont pris. Ils l'ont emmené. » chuchota la mère en agitant les bras. Son fils lui restait. Le cœur de Pélagée se mit à battre plus tranquillement, sa pensée s'immobilisait devant un fait qu'elle ne pouvait concevoir. « Il se moque de nous, cet homme jaune. Il nous menace. »« Assez, mère !» dit soudain Pavel avec décision. « Viens, rangeons tout cela. » Il lui avait dit « mère » et « tu », comme il le faisait quand il devenait plus démonstratif. Elle s'approcha de lui, le regarda en face et demanda à voix basse. « Ils t'ont humilié ?»« Oui, » répliqua-t-il. « C'est pénible. J'aurais préféré aller avec eux. » Il sembla à la mère qu'il avait les larmes aux yeux. Et pour le consoler de son chagrin, qu'elle devinait vaguement, elle dit en soupirant « Patience, tu seras prise aussi. »« Je le sais, » répondit-il. Après un instant de silence, la mère ajouta avec un accent de tristesse « Si seulement tu me calmais. Mais non, je dis des choses terribles et tu m'en réponds de plus terribles encore. » Il lui jeta un coup d'œil, s'approcha d'elle et lui dit à voix basse. « Je ne sais pas vous répondre, maman. Je ne peux pas mentir. Il faut vous y habituer. » Elle soupira et se tut. Puis elle reprit, frissonnante. « Et qui sait ? On dit qu'il torture les gens, qu'il leur déchire le corps en lambeaux et leur brise les os. Quand j'y pense, j'ai peur. Pavel, mon chéri. » Il broie l'âme et non le corps. C'est encore plus douloureux que la torture quand on touche à votre âme avec des mains sales.